Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas déjà salués. C'est encore un plaisir aujourd'hui d'être là parmi vous et encore un honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est marrant dans la vie, comme on a l'impression qu'il peut y avoir plein de plans. Pour ma vie, personnellement, j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs plans, plusieurs, on peut appeler ça des saisons, mais que les plans tout au long de ma vie ont changé. Plan A, le Seigneur aurait voulu que je sois près de lui. Plan B, moi, j'ai mis mon identité dans les sports extrêmes, le roller notamment beaucoup, le skate, etc. Plan C, il y avait l'armée, le rugby, tout ça, tout ce qu'il y avait à côté. Et mon plan D, c'est quand le Seigneur est venu me chercher. Et quelquefois, en lisant la Bible, j'ai l'impression que c'était pareil, que le Seigneur, il a eu plusieurs plans dans la Bible. Plan A, Adam et Ève. On va les mettre dans le jardin, on va vivre ensemble. Mais ça ne va pas. Ils ont chuté, ils ont désobéi au Seigneur. Plan B, on rase tout, on éradique tout, par l'eau, le déluge, et on recommence à zéro, avec Noé, quelqu'un qui avait la faveur de l'Éternel. Mais le Seigneur, il a quand même vu que le mal restait dans le cœur des hommes. Plan C, Abraham, quelqu'un qui avait une foi énorme, le père de la foi. L'Éternel a été touché et il a dit « Maintenant, je vais faire une alliance avec lui ». Il a fait une alliance par son fils Isaac et il lui a promis le pays. Mais ce n'était pas suffisant. Le mal, la désobéissance continuait à rester. Et je pense que l'Éternel, à un moment, il s'est dit « Ok, mais comment est-ce que mon peuple peut savoir qu'il me désobéit ? Ils ne savent pas, il n'y a rien. » Alors, plan D, Moïse. Je sors mon peuple d'Égypte et je lui donne une loi. Comme ça, il a quelque chose à respecter. Il y a un plan cadré et il saura quand il désobéit. Mais ça ne marchait pas non plus. Le peuple continuait à désobéir et à s'éloigner du Seigneur. Plan E, j'ai pas le choix. Je vais descendre moi-même, j'envoie mon fils. Il va mourir à la croix, porter le péché des hommes, c'est la seule manière de pouvoir sauver l'humanité. Donner son fils. Quel amour, Emmanuel nous l'a rappelé, quel amour. Mais en réalité, le plan de Dieu, c'est pas plan A, plan B, plan C, jusqu'au plan E. En réalité, Jésus était le plan A. Déjà à l'époque, dans le jardin d'Éden, on peut voir qu'il y avait au milieu l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est Jésus. Jésus était déjà présent au commencement, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'avait pas pu faire encore son choix. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui asservit, n'est pas un Dieu qui va rendre les hommes esclaves. Il nous laisse le choix. Et à cette époque-là, l'homme n'a pas pu faire son choix, puisque le Seigneur l'a mis automatiquement dans le jardin. Et c'est à ce moment-là où il avait le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la désobéissance. L'homme a fait son choix. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, il a continué à aimer l'homme. Et là où il aurait pu l'éradiquer totalement, il a laissé Noé. Et ce déluge, ce renouveau par les eaux, qui peut aussi préfigurer notre baptême à nous. Ce témoignage, immersion dans l'eau, on ressort et on appartient à Christ. Le péché reste au fond. Abraham qui est le père de sa foi, de la foi, qui a obéi au Seigneur. Donc on peut préfigurer, j'aime bien cette image-là qu'on donne souvent, quand Abraham met Isaac sur l'autel, qui préfigure vraiment le Seigneur qui va mettre son fils Jésus sur l'autel, qui va le donner en sacrifice. Mais il y a une chose aussi qu'on peut oublier, c'est l'obéissance d'Abraham. L'obéissance d'Abraham qui est allé jusqu'à porter son fils, le fils de l'Alliance, la promesse de Dieu, sur l'autel qui était prêt à le sacrifier par obéissance. Cette obéissance, moi je la vois comme l'obéissance de Jésus, qui malgré tout, Jésus il a vécu tout ce qu'on vit, il a ressenti tout ce qu'on ressent. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il a tellement eu peur, il était tellement dans l'angoisse que des grumeaux de sang coulaient sur son front. C'est cette obéissance, la parole nous le dit, c'est cette obéissance que Jésus avait pour le Père qui a fait qu'il est allé jusqu'à la croix, qu'il est allé jusqu'au bout. Jésus était le plan A. Je vais vous lire un verset dans Michée 5, verset 2, mais avant, on pourrait peut-être avoir la photo, merci Philippe. Voilà. Jésus, c'est un plan sans accroc, avec un grand A. Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, première chose, Bethléem, la ville où est né Jésus. Donc déjà, là, Michée, il me semble que c'est à peu près 700 ans, si je ne me trompe pas, avant la naissance de Jésus. Michée a déjà prophétisé que Jésus allait naître à Bethléem. Pour moi, celui qui dominera sur Israël, c'est Jésus. C'est Jésus qui domine, Jésus est le roi des Juifs. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité, waouh, qu'est-ce que l'éternité ? Quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'éternité ? On voit souvent cette éternité qui est devant nous dans la présence du Seigneur. C'est génial, même si on ne peut pas se la représenter exactement, on est trop accroché dans le temps, mais réfléchissez juste qu'il y a une éternité aussi avant nous. D'où tout commence, avant la création du monde, il y a l'éternité encore. Tout est tellement grand et Jésus y était déjà. Jésus était présent dès le commencement. Une des premières annonces de Jésus et qui parle de nous en même temps, dans Genèse 22, verset 18, « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Et là, on parle d'Abraham. C'est le Seigneur qui scelle cette alliance avec Abraham. Mais dans cette alliance, il est écrit « tous les peuples de la terre ». Ce n'est pas écrit « le peuple juif ». C'est écrit « tous les peuples de la terre ». On sait qu'avant Jésus, il n'y a que les Israélites, ou ceux qui venaient et puis qui se convertissaient entre guillemets au judaïsme, qui avaient accès au Seigneur, qui avaient accès à ce salut en respectant la loi. Et par Jésus, le salut, la grâce a été offert aux païens, à nous. Et ça, dès Genèse, dans les commencements, dans les débuts, les tout premiers livres de la Bible. Je vais vous lire aussi le psaume 22, du verset 17 à 19. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter sur mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et en tirent au sort ma tunique. J'aime beaucoup ce psaume. C'est David qui l'a écrit, donc à peu près 1000 ans avant Jésus. Ce psaume, il nous raconte comment ça va se passer à la croix. Des hordes de chiens m'environnent, la meute de méchants m'assaille, ils partagent mes vêtements. Donc là, c'est clairement les gardes romains. Mais ils ont percé mes mains et mes pieds, ce qui préfigure la crucifixion du Christ. Alors, je suis allé chercher deux, trois choses là-dessus. Donc la crucifixion, sachant que ça a été annoncé 1000 ans avant que Jésus vienne au monde. La crucifixion... D'après les historiens, donc par rapport à Hérodote, qu'on considère comme étant le premier historien, un grec, le crucifiement remonterait à la période perse, à peu près au temps de Darius Ier. Donc ils estiment la création, entre guillemets, de la crucifixion, du crucifiement, aux alentours du 7e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que David, là, il nous parle de la crucifixion, mais il nous en parle 300 à 500 ans avant qu'elle existe, avant que ça existe. Et comment est-ce que le supplice de la crucifixion amène le condamné à la mort ? Parce que bien sûr, c'était un châtiment généralement pour une peine de mort, la crucifixion sous les Romains. Eh bien, ce n'est pas les clous plantée qui entraînait la mort. Ce qui a entraîné la mort, c'est tout simplement l'asphyxie. Pourquoi ? Parce que quand vous vous retenez, quand vous n'avez plus rien qui vous retient, ben en fait, votre poids, il va appuyer sur le diaphragme, ce muscle qui, c'est le muscle respiratoire, ce muscle qui va faire en sorte qu'on puisse inspirer et expirer. Et quand tout votre poids repose sur le diaphragme, ben vous pouvez plus inspirer, expirer normalement, vous pouvez plus que expirer, et au bout d'un moment, ben, quand vous n'avez plus d'air, vous suffoquez, vous mourrez asphyxié. Mais quand la personne était crucifiée, elle avait soit un petit bout de planchette sous les pieds, ou quoi qu'il en soit, il y avait le clou planté dans les pieds. Donc le condamné pouvait s'appuyer un peu pour pouvoir respirer, pour l'aider. Donc ce supplice pouvait durer des heures, voire des jours. Et c'est pour ça que les Romains, ils brisaient les jambes des condamnés pour accélérer ce processus. Une fois que les jambes étaient brisées, le condamné ne pouvait plus s'appuyer sur les jambes, et du coup, ben, la force des épaules, rapidement, elle fatigue, et la personne s'asphyxiait plus rapidement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'on sait très bien que dans ce verset, il a dit « Je pourrai compter tous mes os ». Le Seigneur a dit qu'aucun os de Jésus ne serait brisé. Or, si Jésus, à la croix, aurait dû subir le châtiment réservé à tous ceux qui étaient condamnés à cette peine, il aurait dû avoir les jambes brisées, comme les deux brigands à côté de lui ont eu les jambes brisées. Mais pour que la prophétie soit accomplie, Jésus a rendu son dernier souffle avant. Et aucun os n'a été brisé. Pour vérifier s'il était bien mort, ils lui ont transpercé le flanc. 1000 ans avant que Jésus soit crucifié, David a prophétisé que même pas un seul os de Jésus ne serait brisé. C'est fou, c'est hallucinant. Il y a tellement d'autres prophéties comme ça qui se sont réalisées. On peut penser à la prophétie de l'Anon pour rentrer dans Jérusalem. Il y en a beaucoup. Toutes les prophéties ont été accomplies. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que quand le Seigneur accomplit sa parole, son plan, il l'accomplit avec précision. Avec précision. La crucifixion, les os non brisés. Dieu est un Dieu de précision. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On peut dire que le Seigneur, il agit avec puissance. La mort, cette mort dont personne, aucun être humain ne peut se libérer. C'est impossible. Les chercheurs, depuis des dizaines, voire peut-être même des centaines d'années, si ce n'est pas des milliers, cherchent la vie éternelle sur la terre, cherchent à vaincre la mort, chose qui n'est pas possible à l'être humain. Pour ça, il faut la puissance de Dieu. Dieu agit avec puissance par la croix. Il a vaincu la mort. Et il n'a pas vaincu la mort, il a vaincu la mort avec puissance. Avec puissance. Le Seigneur est arrivé avec un nouveau corps. On voit même que les disciples, quand ils le voient la première fois, ils ne le reconnaissent pas. Jésus a revêtu son corps de lumière, cette puissance de Dieu, parce qu'il a vécu cette mort, il a été ressuscité, donc il ne peut plus être soumis une nouvelle fois à la mort. La mort, c'est une seule fois. Une seule fois, cette puissance de Dieu qui fait que cette mort est vaincue. Cette mort est vaincue. Cette puissance qu'il nous donne, cette puissance que par sa grâce, il nous donne. Nous allons peut-être, ou peut-être pas, vivre cette mort physique. Mais nous avons cette conviction que le plan de Dieu est de nous ressusciter quand il redescendra. Il va nous faire profiter de cette puissance. Cette mort n'aura plus de prise pour nous. Et quand Dieu accomplit quelque chose, il le fait à 100%. Jésus sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli, il n'y a rien que nous pouvons rajouter ou enlever à l'œuvre de la croix. Tout est accompli du 100%. Jésus sur sa croix, il n'a pas dit « Bon, le plus gros est fait, maintenant vous finissez, vous balayez un petit peu, puis ça suffira. Hein, » Non, non, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, si le Seigneur a réalisé ses plans avec précision, avec puissance et à 100% dans la parole, Pourquoi est-ce qu'il ne nous réaliserait pas ses promesses pour nous à 100%, les plans qu'il a dans nos vies à 100%? Je croyais que tous ces plans devaient s'enchaîner pour arriver au Seigneur. Souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as été stupide? Pourquoi tu n'as pas suivi le Seigneur avant? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas rapproché de Dieu avant, le temps que tu as perdu? Mais ce n'est pas vrai, parce que c'était son plan A, c'était le plan A. Il a fallu vivre toutes ces choses pour arriver aujourd'hui, où le Seigneur a voulu me conduire. Et pour vous, c'est pareil. Dans votre vie, vous avez peut-être vécu des choses dures, des choses difficiles, des souffrances. Peut-être vous connaissez Dieu depuis peu. Peut-être que vous regrettez certaines choses de votre passé. Aujourd'hui, je vous dis, ce que vous avez vécu dans votre passé va vous servir à devenir qui le Seigneur veut que vous soyez demain. Et cette personne, c'est une personne qui, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, pourra accomplir de grandes choses sur cette terre, à la gloire de Dieu. Les promesses pour nos vies. Promesses, en grec, epagelia, encore problème de prononciation, ça veut dire alliance ou engagement qui a des effets positifs sur le bénéficiaire. Donc, les promesses de Dieu pour nous sont positives. Sont positives. Quand Dieu nous promet quelque chose, c'est pour notre bien. Il ne va pas nous promettre, tiens, je te promets que tu vas souffrir, mais c'est juste comme ça pour le plaisir. Si vous traversez un moment difficile, il y a cette promesse que le Seigneur est avec vous. Et que de ce moment difficile, du positif va sortir. Vous serez bénéficiaire. Dans le psaume 139, le Seigneur nous rappelle que même avant notre naissance, il connaissait chacun des jours de notre vie. Chacun des jours de notre vie était écrit sur le livre. Vous croyez qu'on peut surprendre le Seigneur demain? Ah, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, on va voir si tu sais où je vais aller. Je vous rassure, le Seigneur, il sait exactement quel choix nous allons faire. Nous avons à vivre ces choses. Mais on ne peut pas surprendre Dieu. On ne peut pas surprendre Dieu. Il faut pas le... N'humanisons pas le Seigneur. N'oublions pas quelle puissance il a. Il n'est pas soumis au temps. Nous, on voit aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là, mais le Seigneur, lui, il voit déjà bien au-delà. Maintenant, si vous avez reçu une promesse de la part du Seigneur, ça peut être une promesse dans la parole. Il y a beaucoup de promesses que le Seigneur nous fait dans la parole. Mais ça peut être une promesse personnelle aussi. Une promesse de guérison, une promesse de pourvoir, une promesse de restaurer. Ou que sais-je, il y a autant de promesses qu'il y a d'enfants de Dieu. Ben aujourd'hui, le Seigneur, il va vous dire, je vais accomplir ta promesse à 100%, avec puissance et avec précision. Et pour ça, Seigneur, il m'a envoyé une parole. Et cette parole, je vais demander à Nathan de nous la lire. Je lui ai confié tout à l'heure.
Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré?
Vous aurez compris que c'est une question rhétorique. Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Le Seigneur, s'il promet quelque chose, il l'accomplit, il ne ment pas. Il ne ment pas, il ne mentira pas, il ne pourra jamais mentir, car le Seigneur ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne pouvait pas cautionner la désobéissance, le péché, ce n'était pas possible, parce que c'est sa nature. Le Seigneur a le péché en horreur. Mais sa nature, c'est aussi l'amour, avec un énorme A. Et ça non plus, il ne pouvait pas le renier. C'est pour ça que son plan A, qui est Jésus à la croix, s'est produit pour que son amour puisse se manifester malgré sa justice. Dieu est un Dieu juste. Mais c'est un Dieu d'amour. Et cette justice qui devait nous condamner, il nous a promis de nous en libérer. Par amour. Par amour, il a envoyé Jésus. Et si vous n'avez pas reçu de promesse de la part du Seigneur, admettons, vous dites là comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas reçu de promesse, je vis ma vie, mais ben moi je vais vous en donner une. Vous pouvez la noter, elle est dans Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là où ça devient intéressant. et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si le Seigneur nous promet ça dans la parole, ça veut dire qu'il est avec nous à 100%. Si le Seigneur dit ça, ça veut dire qu'il est avec nous, avec puissance, et qu'il ira jusqu'au bout avec nous, jusqu'à la fin du monde. C'est pour moi une des plus belles promesses que le Seigneur peut nous faire. Et justement, tout à l'heure, j'ai vécu plutôt une bonne semaine. Généralement, il y a quelques petits couacs avant une prédication ou quoi. Mais là, j'étais bien, j'étais zen, j'étais détendu. Et ce matin, pendant qu'on chantait, j'ai eu justement ce moment de stress. Oh là là, et si ça se passait mal? Et si j'arrivais pas à transmettre ce que Dieu veut? Parce qu'on commence à... Je pense que beaucoup d'entre vous pourront savoir un peu de quoi je parle. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, Seigneur, il est avec moi, Jésus est avec moi là. Donc il n'y a pas de souci, moi je monte, j'y vais avec Jésus. Je monte avec Jésus, ici. Je ne suis pas tout seul, il y a Jésus qui est à côté de moi, je vais même vous dire mieux. Là, il nous dit, je suis avec vous tous les jours. Moi, je vais vous dire encore mieux, il est en vous tous les jours. Parce que depuis la Pentecôte, il a envoyé le Consolateur, son Esprit en nous. Le Consolateur, pourquoi le Consolateur? Pourquoi pas le Fortifieur? Pourquoi pas la puissance de Dieu en nous? Je ne sais pas, le Consolateur. Imaginez-vous à la place des apôtres, à la place de ceux qui ont vécu ces 3 ans avec Jésus, ceux qui l'ont côtoyé tous les jours. Quand il devait remonter au ciel, le déchirement que ça a dû leur produire dans le cœur. Peut-être avez-vous vécu ça un jour, que ce soit dans une colonie de vacances ou ailleurs, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez sympathisé, vous avez eu des moments mais vraiment très intenses, très, très particuliers. Et au moment de se séparer, où chacun doit rentrer chez soi, on sait très bien qu'on ne s'écrira pas ou qu'on se téléphonera, et là vous sentez un petit peu ce brisement, ce déchirement à l'intérieur. Imaginez les disciples, ils ne quittaient pas n'importe qui, ils quittaient Jésus, enfin Jésus les quittait plutôt. Alors imaginez quand Jésus leur a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, je vous enverrai le Consolateur. » Parce qu'ils étaient tellement attristés, c'est comme ça que je le vois, ils étaient tellement attristés, leur cœur était tellement, tellement déchiré, tellement de tristesse à perdre le Seigneur, qu'il leur fallait un Consolateur, quelqu'un, un esprit, l'Esprit qui vient leur remettre cette présence de Jésus dans le cœur, cette présence que nous avons aujourd'hui, nous avons Jésus en nous, et ce, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jour où il reviendra pour nous emmener avec lui, et nous passerons l'éternité dans sa présence. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une promesse de la part de Dieu. C'est une promesse de la part de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais que chacun d'entre vous ferme les yeux. Et j'aimerais que vous pensiez à une promesse que Dieu vous a faite, n'importe laquelle, celle qui vous a faite à vous. Et si vous n'en avez pas, pensez à ce que Jésus est avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, le Seigneur vous dit, prends courage. Prends courage parce que je suis avec toi. Parce que ta promesse, quelle qu'elle soit, je vais l'accomplir, car je ne mens pas. Je vais l'accomplir avec précision. Je vais l'accomplir avec puissance. Et je vais l'accomplir à 100%. Oui, Père éternel, on veut te remercier pour ta parole, on veut te remercier pour ce plan parfait, ce plan A qui est Jésus à la croix. On veut te remercier parce que tu nous as tellement aimés que tu as laissé cette justice qui devait nous condamner à mort et tu nous as sauvés avec puissance par ton Fils Jésus. Je te remercie pour ces promesses, parce que tu n'es pas un Dieu de distance, parce que tu n'es pas juste un Dieu que l'on doit vénérer, mais tu es un Dieu de proximité, avec qui on a une relation. Tu veux cette relation, Seigneur, avec nous. Et par cette relation, tu nous fais des promesses. Par ta parole, tu nous fais des promesses. Quand tu nous parles, tu nous fais des promesses. Seigneur, nous croyons aujourd'hui fermement, avec une foi inébranlable, que tu n'es pas un homme pour mentir, que tes promesses, tu les conduis jusqu'à leur réalisation, à 100%, avec puissance et avec précision. Et Seigneur Tout-Puissant, on veut t'en remercier. On peut t'en remercier. Nous ne ferons pas de promesses, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut continuer à t'adorer, te glorifier et à vivre pour toi. On te demande de venir agir avec puissance dans nos situations, Seigneur. Vraiment que chacun d'entre nous puisse ressortir fortifié, confiant, Seigneur, confiant en toi. Et c'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Ça va être le temps de partager ce moment de communion que Jésus aussi nous a laissé, la Sainte Cène. Et pour ça, je vais vous lire un passage dans Matthieu 26, du verset 26 à 29. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis, il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ça, j'aimerais qu'on se concentre sur la fin du verset. Où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est une promesse encore que Jésus nous fait. Il nous fait cette promesse que nous allons le retrouver, cette promesse qui va nous emmener dans le royaume de son Père. Cette promesse qui va revenir aussi nous chercher. Cette promesse où il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonne jamais. Et aujourd'hui, quand vous allez prendre ce pain et ce vin, pensez au sacrifice que Jésus a enduré pour nous. Mais pensez et ayez confiance dans le fait que le Seigneur Jésus va revenir avec puissance pour nous emmener dans la gloire de l'éternité, dans la présence de notre Dieu. Je vais appeler Théo et Clément qui vont distribuer la scène. Clément, si tu veux prier pour le pain.
Merci Seigneur pour ce cœur brisé à la croix, parce que j'en suis pas digne, et puis tu ne le méritais pas, et moi aussi. Amen.
Pendant ce moment, je vous invite à vraiment vous mettre en relation avec le Seigneur. Si vous voulez prier à haute voix ou entonner un chant, sentez-vous libre. Théo va prier pour le jus de raisin.
Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait que tu as fait pour nous. Merci parce que, comme Clément l'a dit, personne n'en est digne. Merci parce que tu as fait ça par grâce. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. En ton saint nom, amen.
Amen. Je vous laisse découvrir le programme de la semaine à l'écran. Mais avant, on veut se réjouir avec la famille d'Emmanuel et Noémie Sauré pour l'arrivée de Kélian dimanche passé à 13h50. Tout début d'après-midi, waouh! Bravo, magnifique! Emmanuel transmet nos bonnes salutations à Noémie, qu'elle se repose encore, et que Dieu la renouvelle, fortifie ses forces aussi. 3 kg 850 quand même, hein. Waouh! Cet après-midi, à 18h, ici, le concert. Donc, pour la fête de la musique, qui est une bonne occasion de partager aussi la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent, qui nous connaissent. C'est encore temps pour faire des invitations. N'hésitez pas et remettons vraiment ce temps devant notre Dieu pour que ce soit un temps béni, un temps pendant lequel la bonne nouvelle se répand aussi autour de nous. C'est bientôt les vacances. Pas tout de suite, mais quand même, ça va être vite, vite là. Et en été, donc, il n'y aura pas de programme d'école du dimanche, comme d'habitude. Par contre, je vais mettre cette feuille d'inscription au fond de la salle, sur le seul panneau, on va trouver un petit peu de place. Et puis, on vous propose de vous inscrire pour prendre un dimanche où vous vous occupez des enfants, pour peut-être raconter une histoire, faire des jeux, selon votre inspiration. Comme ça, ça change un petit peu. Ça décharge aussi l'équipe de moniteurs habituels. Et puis, pourquoi pas, c'est l'occasion pour l'un ou l'une de se familiariser avec ce service, ce ministère aussi. Donc, il y a 6 dimanches qui sont à pourvoir. J'en profite puisqu'on en est aux inscriptions. Ce matin, c'était super sympa de partager ce moment convivial de tes cafés. Alors, il y en aura un encore dans 2 semaines. Mais pour l'instant, sur le tableau, c'est vide. Alors, si quelqu'un veut bien le prendre en main, s'engager pour ça, merci d'avance. Je vous rappelle donc aussi le club d'été du 9 au 15 juillet. Donc, le club en soi est complet. C'est super. Par contre, il y a encore de la place pour le culte du dimanche, le culte de clôture, donc le culte du 15 juillet, qui se tiendra donc dans la salle Gaston Laverrière, sur place. Et il y a même des flyers spécifiques pour inviter des gens à ce magnifique temps à partager ensemble. Donc voilà, peut-être que des personnes de vos connaissances n'ont pas inscrit leurs enfants pour différentes raisons. Ça ne les empêche pas de venir partager ce beau moment de culte du 15 juillet. Donc les flyers sont sur le petit meuble au fond de la salle. Le week-end d'après le 15, donc le dimanche d'après le 15, le 22, il n'y aura pas de culte ici non plus. On aura donc le culte à la Lècherolle, ainsi que le 9 septembre, où on aura les 8 et 9 septembre, un week-end d'église. C'est important de les réserver aussi dans les agendas, parce que c'est vrai que les agendas se remplissent déjà très vite. Les travaux en bas continuent, peut-être dans des phases moins spectaculaires que ce qu'on a connu dans le passé, mais il y a encore des travaux qui se font, et pour samedi prochain, on a de nouveau besoin de quelqu'un pour venir faire le nettoyage après. J'en profite pour remercier ceux qui se sont déjà inscrits. C'est pas simple, hein. Nous on fait les travaux, c'est cool, on avance et tout, on voit des choses qui se passent, puis après il faut nettoyer, puis ceux qui nettoient, ben, quand ils sont passés, bien sûr c'est tout propre. Mais c'était propre avant qu'on fasse les travaux, donc c'est moins visible aussi. Mais c'est tellement important ensuite de retrouver les locaux propres pour le groupe de jeunes le samedi soir et puis pour le temps de dimanche où on partage le culte. Alors voilà, si une personne a à cœur, venez me le dire à la sortie. Il y a eu plusieurs fois les mêmes personnes. C'est cool, mais c'est dommage parce que c'est tellement plus sympa si ça peut se répartir aussi sur plusieurs personnes. J'en ai pas parlé, mais j'en profite pour vous rappeler la mise à jour du fichier de nos données personnelles auprès de Nancy pour refaire un CEPTélécom, un annuaire des personnes qui sont en lien avec l'Église. Sinon, on veut être content, c'est vrai, on l'a déjà dit, de voir Maurice parmi nous ce matin. Que Dieu vraiment continue de te rétablir dans ta santé, te fortifie. Que tes forces reviennent, voilà, prends le temps de te reposer et que ce soit aussi un temps de bénédiction de la part de Dieu. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces à partager? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever. Je vous lis 2 versets dans Psaume 103. Psaume 103, le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux où il domine, bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Bon appétit, bon après-midi et à tout à l'heure.